Oui, merci. Oui, le titre pour notre soirée m'a évidemment immédiatement, comme vous, je suppose, renvoyé à ma propre expérience d'un tel embarras dans ce qui est une assez longue carrière institutionnelle déjà. Et ce titre débute par le transfert après. Après quoi, on vient d'en parler, et aussi pourquoi ce pluriel. Après, je suppose que ça renvoie après la cure, ou au moins après la passe, autrement dit, après la destitution du sujet et de la supposition de savoir qui le soutenait. Le transfert avant, nous connaissons tous la phrase de Lacan, le transfert, c'est de l'amour qui s'adresse au savoir. Alors, quelle pertinence y aurait-il à parler du transfert après la passe? Avant Lacan, ou à côté, on parlait plutôt de dissolution du transfert pour qualifier la fin. Et du coup, les manifestations, disons, affectives qui se produisent dans le collectif étaient considérées comme des signes d'insuffisance d'analyse. Le problème, c'est que ces phénomènes sont constants dans tous les groupes. Et un rapide survol des opinions des uns et des autres sur qui est mal analysé, voire pas analysé du tout, recouvre très rapidement l'ensemble du collectif. De Lacan lui-même, j'ai pu entendre dire que c'était un théoricien brillant, qu'il ne fallait surtout pas aller chez lui en analyse. Et d'après ce que j'entends ici ou là, ça n'a pas beaucoup changé chez nous, jusqu'au plus garanti des garanties, les AEP. Le jour où la nomination de l'un d'entre eux fera l'unanimité n'est pas encore arrivée. Alors à quoi bon être passé par ce temps de focalisation du transfert dont l'adresse à l'analyste si les transferts reprennent leur folle sarabande d'avant? Et si Lacan a pu dire « évidemment, c'est un échec, cette passe, ce n'est quand même pas pour rien ». Son pessimisme dans les séminaires de ce que nous appelons la fin de son enseignement est constant. S'il semble parfois se lamenter, en fait, il en fait surtout la faille nécessaire, l'échec, le ratage, la faille nécessaire au départ de son nouvel effort pour reformuler l'expérience de l'analyse, qui, elle, est aussi irréfutable que ses impasses. Ainsi, dans le séminaire Le Symptôme, Lacan fait explicitement du ratage du nœud sa condition première. Tout nouage part d'un ratage. Le péché est originel. En anglais, original sin, première syllabe du symptôme. Il le souligne. Et le ratage premier nous conduit tout droit à l'impossible, à l'incurable de chacun, que l'on ne peut que reconnaître, toujours après coup, pour essayer d'en limiter les dégâts. On peut à l'occasion le qualifier de poème, il ne lui tient pas moins. L'embarras, un terme lacanien, donc, qui a toute son importance, je le rappelle, dans toute sa place dans un certain tableau qu'il a proposé, l'embarras du collectif, qui nous tracasse plus que ses bienfaits qui ne sont pas au programme ce soir, c'est peut-être cela. Chacun, qu'il soit passé ou non, y entre dans le collectif avec son incurable, toujours déjà à l'œuvre. Et je propose pour ce soir de définir cet incurable comme la façon qu'a chacun de faire, ou plutôt de réparer son mieux avec d'autres corps parents choisis dans le collectif. Certes, dans le collectif minimal et par la fondamentale qu'est le discours analytique, il est possible de décoincer le nœud, de lui rendre sa souplesse, voire sa fécondité, mais on ne peut pas pour autant le défaire. Alors est-ce que nous devrions écrire sur le fronton de notre école la phrase célèbre, que je ne dirai pas en italien, « Vous qui entrez, laissez toute espérance ». Pourquoi pas, puisque Lacan a dit que la psychanalyse est sans espoir. Sans espoir de rompre le nœud, c'est ce qu'il dit dans la deuxième leçon du symptôme. Et il précise que c'est ce par quoi elle est le négatif de la religion. Vous savez, dans la religion, l'espoir, l'espérance constitue une des trois vertus théologales. Mais quand même, Lacan disait ça devant 800 personnes qui se pressaient à son séminaire. Qu'est-ce qui pouvait les rassembler ainsi? Y aurait-il vraiment que le malentendu d'une espérance partagée qui puisse rassembler un collectif, quel qu'il soit, avec ses inévitables désillusions? Alors, il y a une association de psychanalystes que nous connaissons, pour en revenir, au moins les fondateurs, et qui est explicitement structurée autour d'une promesse, rien moins que celle de changer le monde. Du Christ recrutant ses apôtres à Bill Gates, la méthode est éprouvée et peu résiste à un tel appel. Je n'invente rien. Il y a 2 ans, à l'occasion des élections présidentielles en France, il y a été affirmé qu'il était temps que les psychanalystes prennent la main des politiques. Prendre la main, soyons clairs, ça ne veut rien dire d'autre que prendre le dessus sur l'autre, le commander, même si c'est pour son père. Et nous arrivons là à l'autre forme du transfert qui fait les embarras du collectif, non plus les transferts horizontaux ou latéraux qui lient les uns aux autres, mais le transfert vertical à l'autorité du chef qui représente l'un. Les collectifs analytiques n'échappent pas à la question simple qui se pose à tous les collectifs. Qui commande? Une question qui implique de savoir comment et au nom de quoi sont choisis ceux qui commandent. Alors, ce qui regroupe le collectif peut-il être autre chose qu'un espoir partagé? Une espérance se ramenant toujours donc à un projet de domination. Domination sur le semblable, sur la nature, sur le symptôme, qu'importe. Et Lacan, je vous l'ai dit, non seulement était sans espoir, mais il a interprété l'espérance. Par une équivoque, bien sûr. L'espérone. C'est la troisième. La polysémie de cette équivoque en fait un poème, susceptible de multiples commentaires. Je relève simplement qu'on y trouve le laisse de l'impératif du verbe laisser, en même temps que le substantif qui désigne ce lien solide servant à maintenir un animal, notamment un chien, pour l'attacher ou le promener à ses côtés. C'est ce que dit le TLF, le président de la langue française, qui ajoute que ça conduit à un sens figuré qui est d'imposer à quelqu'un sa volonté. La laisse nous conduit donc directement à la figure tutélaire du pouvoir, le père et à la rogne. Alors la rogne, dans son sens vieilli, c'est ce qui ronge, la gale, la lèpre. C'est aussi d'une étymologie différente, mais qui peut ronger aussi, la colère, la mauvaise humeur, l'amorosité dont Lacan nous parle dans sa télévision. Et en fait, je vous rappelle, l'affect des corps qui ne peuvent trouver logement à leur goût dans le langage, autrement dit dans le collectif. Il demande si c'est un péché, un grain de folie ou une vraie touche du réel. Rien n'empêche que ce soit en même temps les trois, puisque le péché, la vie est inaugurale, et que ce soit là ce qui coince incurablement le nœud de chacun. Alors que fait-on de la rogne dans le collectif? Une rogne souligne inévitable, car aucun un n'assurera jamais la juste répartition, moins des biens que des jouissances. Question politique tout à fait d'actualité, spécialement colorée en jaune. Et dans le collectif analytique, rien ne nous force à fréquenter, pas même la nécessité alimentaire, puisque notre clientèle n'en dépend pas, ou très peu. Que devient cette rôle dans le collectif?
Je pourrais parler dans le micro régulièrement parce qu'on ne comprend pas toujours.
Pardon?
Je n'ai pas entendu la dernière partie.
La dernière phrase?
Oui, mais... Rapproche le micro de toi.
Merci. Que devient la rogne collectif analytique? Comme partout, on peut la balancer d'une dose d'espoir. C'est comme ça, c'est ce qui préside à la promotion des râleurs, qui a toujours été un principe de base du management chez nous aussi. Et c'est sans fin et donc sans espoir. Bref, considérer le collectif sous son versant d'embarras me paraît une voie sans issue et presque sans intérêt. Cet embarras est intraitable, même si ses formes cliniques peuvent varier selon les sujets et selon les conjonctures. Par exemple, l'âge des associations. C'est ce qui faisait, par exemple, un Philippe Julien préconiser une dissolution tous les 10 ans. Cela dit, il me semble que l'embarras du collectif ne peut pas étouffer les plaisirs du collectif. Sans quoi, évidemment, le collectif explose. Il doit bien y avoir de tels plaisirs, même si ce ne sont pas les mêmes pour tous. Alors, il y a ceux qui relèvent les transferts latéraux, qui sont aussi la ville que leurs embarras, et donc sans grand intérêt. Mais en revanche, et pour ce qui concerne, c'est vrai qu'il y a l'un plaisir qui m'attache encore et toujours au collectif analytique, et c'est celui que me procure la lecture de Lacan. Lacan qui est pour moi une source indéfiniment renouvelée de ce que j'oserais appeler des effets de vérité. Des éclairs qui me donnent un regard nouveau sur mon incurable et qui, par là, renouvellent mon intérêt pour cette folle pratique qui est la nôtre. Folle pratique où nous devons diriger une cure sans donner d'ordre à celui qui parle. Alors, autant Lacan apprenait le retour au texte de Freud, autant nous n'avons que notre fidélité au texte de Lacan comme dénominateur commun. Une fidélité qui nous est d'ailleurs abondamment reprochée. Mais enfin, voyons, il n'y a pas que Lacan, il y en a d'autres aussi. Lacan n'a pas tout dit, et puis Lacan est mort il y a 40 ans, presque un siècle, et puis le monde a changé depuis. On nous reproche aussi de n'être que des commentateurs sans imagination, sans créativité. Moi, ça me paraît être le contraire. Il me semble que nous nous efforçons de tirer les conséquences, encore largement inexplorées, de cet enseignement. Et notre incurable est là pour nous rappeler que toute vérité inclut son point structural d'ignorance, ce qui fait qu'on ne peut pas prétendre être fidèle seul. Alors reste la question épineuse du débat théorique dans le collectif. Impossible, je le rappelle, autant que le dialogue. Alors Lacan proposait à cette impossibilité du dialogue un traitement qui ne peut pas être étiologique, mais uniquement symptomatique, et c'est la courtoisie. Il y aurait sur cette courtoisie beaucoup à dire, mais je me contente de vous renvoyer à la page 467 des écrits. Merci.